48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 80... Ouh, ça y est, ça commence. 89e Mag, c'est pas facile à dire en même temps.
89, non ?
Hein ?
C'est juste avant 90, Julia.
C'est ça. En tout cas, c'est le dernier Mag de l'année. Voilà, donc le programme reste quand même le même. Une heure d'émission, deux invités. Donc pour présenter ce Mag avec moi, Nicolas.
Salut, bonjour à tous.
Donc aujourd'hui, nous allons parler donc cinéma avec Pierre Delmas, Rémi Arrault et Vincent Lacombe de l'association Safe Project et Jean-Claude Lacaze qui nous parlera du projet InnoMur qui a récemment proposé un nouveau concept de construction qui s'appelle Isostal et donc il nous en parlera un petit peu plus. Donc nous allons d'ailleurs commencer cette émission avec vous, Jean-Claude. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter,
bonjour, tout simplement ? Oui. Bien, je m'appelle Jean-Claude Lacaze, voilà, j'ai 60 ans et je suis artisan du bâtiment depuis 35 ans aujourd'hui.
Voilà. Donc beaucoup de maisons construites en Lozère.
Beaucoup de bâtiments, beaucoup de maisons.
Donc très ouais. Connues.
Oui, et puis une expérience assez intéressante dans le bâtiment. Voilà. C'est ce qui m'a conduit justement à créer le bloc Isostal que nous allons présenter maintenant.
Alors, votre entreprise, c'est quoi en termes de chiffre d'affaires, de nombre d'employés ?
Alors, pour le moment, l'entreprise, elle a été créée il y a un an. Elle a été créée uniquement pour fabriquer et commercialiser ce nouveau concept qui s'appelle le bloc Isostal. Donc aujourd'hui, nous sommes que deux avec Aurélien, mon fils, à être salarié de l'entreprise. Et donc nous avons des prévisions d'embauche déjà en début 2015 pour fabriquer et commercialiser le bloc.
Donc c'est une affaire qui marche.
C'est une affaire qui marche et qui va marcher, j'espère.
Voilà, donc justement, vous avez été primé plusieurs fois un peu de temps pour ce projet. Donc, concours régional coup de pouce en 2013 et concours national de la construction durable catégorie concept plus récemment, donc en novembre 2014. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du concept, justement, du bloc Isostal ? Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ?
Mais peut-être avant, nous parler de pourquoi vous en êtes venu à penser à ce nouveau bloc ou à ce nouveau système, concept,
voilà,
peut-être par rapport à votre histoire. Quoi.
Parler aujourd'hui du bâtiment, hein, de ce que représente aujourd'hui le bâtiment, puisqu'il vit une véritable évolution, et je dirais même une révolution, puisque vous avez sûrement tous entendu parler de la révolution thermique, hein, la RT 2012. Ouais. Mais avec cette ERT 2012, il y a aussi deux autres normes qui sont apparues. C'est la norme acoustique et la norme antisismique. Celles-là, on en a beaucoup moins parlé, mais elles sont aussi importantes que la première. Et donc, ces trois nouvelles normes, donc, aujourd'hui, font que les systèmes traditionnels sont devenus pratiquement obsolètes dans le bâtiment et il fallait trouver de nouveaux systèmes constructifs pour répondre à ces trois exigences-là.
Alors, le système traditionnel, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi ? C'est le parpaing, c'est
le
ça ?
Le système traditionnel, voilà. C'est le
parpaing ou le moellon, quoi.
Le parpaing de vin ou la brique de vin, qui sont des systèmes constructifs du bâtiment depuis des décennies et des décennies, mais qui aujourd'hui, de plus en plus, vont devenir de plus en plus obsolètes. Ouais.
D'accord.
Voilà.
Donc, fort de ce constat, de cette carence de ce système constructif traditionnel, parce qu'on rajoutait derrière des isolants, des désisolants, donc on diminue l'habitabilité. Voilà. Et du coup, vous êtes posé la question, comment trouver un système constructif qui soit à la fois isolant et qui réponde à ces critères antisismiques, de nuisances sonores et de performance thermique.
Et de performance thermique,
c'est
thermique
ça,
voilà. Et puis qu'il soit en même temps d'un bon rapport qualité-prix, puisque il fallait qu'il reste dans des prix raisonnables.
Oui,
le but, c'est pas d'augmenter le coût de la construction, hein, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, la construction a fortement augmenté. Et il s'agissait pas, au vu de toutes ces performances à rajouter, de rajouter aussi des coûts supplémentaires.
Ouais.
Voilà. Donc il fallait rester dans des normes acceptables. Et donc nous sommes arrivés à ce résultat-là avec le bloc Isostal. Voilà.
Donc le principe, c'est quoi ? C'est un Lego, c'est ça ? C'est comme un Lego ?
Alors voilà, c'est un bloc qui est constitué avec du bois moulé. Donc là, j'ai un partenariat avec l'entreprise Angelvin Bois-Moulet qui fabrique les éléments.
Donc ça, c'est du non délocalisable.
C'est du voilà, on est dans le sud de France, même dans le made in Lozère là, hein, carrément. Voilà, donc puisque c'est avec du bois des forêts lozériennes, hein, avec des résidus, des copeaux, de la sciure,
des copeaux de bois séché,
voilà. Et donc on fabrique les éléments, Elzalven nous fabrique les éléments, et nous, l'entreprise Inomur, on va les assembler pour constituer le bloc. Ben dessus, nous allons coller un isolant polystyrène qui fera office d'isolant extérieur. Parce que c'est là aussi, c'est une chose de très importante, c'est qu'aujourd'hui en France, on construit avec une isolation par l'intérieur.
Alors que dans les pays suédois, tout ça, ou nordiques, tout le monde construit avec un système
extérieur. Voilà. Nous sommes pratiquement un des seuls pays européens à construire encore aujourd'hui avec une isolation intérieure. Et c'est une véritable aberration, puisque c'est le système isolant le moins performant qui existe. Et donc, bon,
petit. Qui laisse les ponts thermiques, qui laisse tout ça, quoi.
Voilà,
donc,
voilà.
Aucun intérêt.
Voilà. Et donc, l'isolation par l'extérieur, c'est l'isolation d'avenir. Elle a un autre nom, hein, ça s'appelle le mur manteau. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire, un mur manteau, c'est-à-dire, ça recouvre entièrement toute l'enveloppe de la maison. Et on a une isolation qui est très performante. On élimine tous les ponts thermiques. Et donc là, on se conforme absolument avec la nouvelle réglementation.
D'accord, mais c'est fait sous quelle forme ? C'est des briques, c'est des volumes comme du Fiporex, par exemple ?
Non. Alors,
des blocs de...
Voilà. Alors, c'est des blocs creux dans lesquels, après, on va couler du béton. Et c'est ce béton qui va assurer...
En fait, c'est un moulage, c'est ça ?
Voilà, c'est un moule. C'est un bloc coffrant. Voilà,
un bloc coffrant, d'accord.
Ce qu'on appelle un bloc coffrant. On va couler du béton à l'intérieur. Ce béton, il va faire office de mur porteur. C'est lui qui va porter la maison. Et en même temps, il va jouer le rôle de régulateur thermique, puisqu'il va être du côté intérieur. Et un mur en béton, il fait l'office d'un radiateur dans une maison. C'est-à-dire que quand vous chauffez votre maison, lui, il va emmagasiner de la chaleur. Et la nuit, vous pourrez couper le chauffage. Et le mur, lui, il va vous restituer la chaleur à la manière d'un radiateur. C'est-à-dire que vous allez économiser de l'énergie, puisque vous n'avez pas besoin de chauffer pendant la nuit. Et vous avez une température intérieure qui est... la même dans toute la pièce, que ce soit au centre de la pièce ou contre le mur. On n'a plus ce phénomène de paroi froide qu'on a avec l'isolation par l'intérieur.
Parce qu'en fait, on a quand même ce bois moulé qui reste à l'intérieur.
Oui, ce bois moulé, c'est un coffrage perdu, il reste à l'intérieur. Voilà.
D'accord. Et donc après, on peut y mettre quoi sur ce
après, à l'intérieur, on a des montants qui sont également en bois moulé, qui sont déjà prévus. Donc on n'a pas besoin de rajouter une ossature métallique comme on rajoute traditionnellement. Et on peut directement visser une plaque de plâtre. Voilà. Et entre ces montants qui sont prévus, on a un vide technique qui permet de passer toutes les canalisations électriques.
Toutes les gaines techniques.
Voilà. Donc on n'a plus besoin de percer, on n'a plus besoin de faire de saigner.
Faut passer les câbles avant de couler ou...
Non. On passe les câbles après. Voilà. Le maçon passe en premier et l'électricien et le plombier peuvent passer
après.
Vous
avez gardé le suivi des corps techniques comme ça
Voilà. Ouais.
D'accord.
Ouais. Parce qu'on sait bien que dans les bâtiments, c'est compliqué de faire intervenir plusieurs corps d'État en même temps. Donc là, c'était une condition aussi de pouvoir échelonner les corps d'État les uns après les autres.
Donc c'est-à-dire qu'en fait, on commande ces blocs, mais on les commande comment ? Ils sont faits sur mesure ou vous avez des blocs entiers qu'on assemble ?
Voilà, on a des blocs standards. Ils font
quelle taille ?
Ils font 60 de longueur et 33 de hauteur. Voilà. D'accord. Donc ces dimensions, c'est pas un hasard. Elles ont été calculées pour se conformer justement à la norme sismique, pour avoir un ferraillage à l'intérieur qui soit conforme à cette norme. Et également pour que les montants du côté intérieur puissent s'aligner et qu'on puisse visser la plaque de plâtre à l'intérieur sur ces montants-là.
D'accord. Donc c'est un montage quand même un peu technique.
Ben, le montage, après, sur chantier, c'est un vrai Lego, puisque les blocs s'assemblent à sec. Il y a des ergots d'assemblage, des ergots d'emboîtement. Ils se clipsent les uns les autres.
Donc c'est auto-stable, en fait, parce que 33, ça fait... Oui, c'est assez
c'est
large.
C'est 33 de hauteur.
Ah, 33, d'accord.
Voilà. En largeur, ils font 17 cm plus 16 cm d'isolant.
D'accord.
Voilà. Et donc, on monte ça comme un Lego. On clipse ça, et une fois qu'on a monté le mur, ben, on coule le béton à l'intérieur.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en deux jours, aujourd'hui, on monte les murs d'une maison de 120 mètres carrés habitable en deux jours. Alors qu'avec
un seul niveau, de plein pied.
Alors qu'avec un système traditionnel, il faut 10 à 12 jours.
Ouais, tout à fait.
Donc c'est beaucoup plus rapide.
Enfin, sans compter l'isolation intérieure, puisque là vous avez déjà l'isolant.
Voilà, donc, là il y a déjà l'isolant extérieur et il y a déjà les montants, il y a déjà l'ossature du parement intérieur. Donc voilà, donc on est beaucoup plus rapide qu'un système traditionnel,
c'est ça, ouais.
Et beaucoup plus performant. On est aussi beaucoup plus léger puisqu'un bloc pèse 4 kg 100. On a 21 kg mètre carré. Alors qu'avec un système traditionnel, on est sur du 200 kg au mètre carré.
D'accord.
Donc, vous voyez qu'en termes...
Les parpaings creux, pèse.
Ouais, ça pèse. Là, ils pèsent 20 kg chacun. Ça fait 200
kg. Donc, de l'ergonomie aussi pour ceux qui les montent. Voilà. Moins de fatigue musculaire.
Moins de fatigue, moins de troubles musculo-squelettiques.
Donc, une anticipation sur la loi sur la pénibilité.
Exactement. On peut parler de ça aussi.
Voilà. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est un métier qui a beaucoup de contraintes. Ouais.
D'ailleurs, peut-être que dans l'avenir, le bloc isosocial sera le seul système constructif remboursé par la sécurité sociale. On ne sait jamais.
Ça peut faire des économies, tout à fait.
On peut espérer.
Ouais. Peut-être une question sur...
Non, moi, c'était une question sur... mais il a répondu, c'était sur le temps de travail pour monter un mur par rapport aux méthodes traditionnelles. Mais du coup, est-ce que c'est un matériau qui va être durable? Combien de temps on...
Ouais, parce que là,
est-ce que c'est quelque chose qu'il faut changer
ou...
Ah ouais, c'est un matériau qui est... La durée de vie, vous parlez aussi, la durée de vie, ben, elle est pratiquement éternelle. Puisque le béton, il dure 100 ans. Quand je dis éternel, c'est dans la mesure du bâtiment, hein, puisque le béton a une durée de vie de 100 ans à peu près. Même aujourd'hui, on a fait des progrès là-dessus, donc c'est peut-être un petit peu plus. Le polystyrène également.
Hein. J'espère que c'est plus parce que le pont de Millau.
Ouais.
Mais ça, c'est il a coûté un bras, s'il faut le refaire. Mais je crois qu'il a amorti, c'est ça, sur une centaine d'années. Un
sur 70 ans.
Ouais. 70 ans.
Ouais, ouais. Et, mais ils ont prévu 150 ans de vie.
150 ans de vie,
ouais.
C'est ça.
Ouais, parce que ce sont des bétons spéciaux.
Ouais. Ouais. Mais là, c'est pas le cas, c'est pas des bétons spéciaux.
Non.
C'est un béton normal.
On peut couler avec du béton traditionnel.
À 300 kg ou 350
kg. 350 kg. Voilà.
350 kg.
Voilà, c'est du béton traditionnel.
Ouais. Moi, j'avais une question sur. Donc, vous avez choisi de faire un assemblage sur une coque moulée bois. Donc, là, qui est un matériau quand même recyclé, recyclable, développement durable, avec une structure en polystyrène extrudé. Est-ce que c'est pas antipathique, enfin, je dirais contradictoire d'assembler ces deux matériaux? Parce que le polystyrène, c'est quand même pas un matériau terrible, quoi. Enfin, en termes de développement durable, je pense.
En termes d'écologie. Alors, là, il y a aussi des idées reçues, peut-être qu'il faut peut-être remettre les choses en place. Le polystyrène, il est constitué de 98% de l'air. Et de 2% de styrène. Le styrène, c'est un dérivé pétrolier. Hein. Donc vous voyez qu'il y a une très faible part de produits pétroliers dans le volume de polystyrène. Si je vous fais la comparaison avec un isolant en laine de bois, vous allez me dire c'est beaucoup plus écolo.
Ma deuxième question. Pourquoi on ne pourrait pas choisir entre laine de bois et polystyrène?
Voilà, vous allez me dire la laine de bois, c'est beaucoup plus écolo. Or, dans la laine de bois, il y a 10% de fibres synthétiques pour lier la laine de bois. Il y en a 10%. Donc, il y a 5 fois plus de produits pétroliers dans l'isolant laine de bois que dans l'isolant polystyrène.
Aujourd'hui, on peut faire de la laine de bois avec de la lignine ou avec un lien qui serait
peut-être dans l'avenir.
Ouais.
Peut-être dans l'avenir. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'idée, elle est un petit peu fausse.
C'est un argument. Après, l'argument visuel, c'est que sur un fer incrépi, sur un polystyrène extrudé, c'est pas. Faut rajouter une grille.
Ah si, voilà. Ouais. La technique maintenant, elle est éprouvée, à condition que ce soit bien fait, évidemment. Il faut pas qu'on ait. Il ne faut pas qu'on ait après des sinistres qui sont liés justement à une mauvaise pose de l'enduit hein, dessus. Ouais. Donc effectivement, il faut faire une couche de base avec une grille et puis ensuite l'isolant.
Ouais.
Ce
qui se fait actuellement d'ailleurs.
En finition.
Ouais. Il y a des maisons amandes qui ont été finies comme ça. Là,
donc aujourd'hui, on restaure les maisons qui ont été construites dans les années 70-80, on les restaure en faisant de l'isolation par l'extérieur. Et paradoxalement, les gens qui construisent des maisons neuves aujourd'hui, ils continuent à construire avec une isolation par l'intérieur. Ce qui veut dire que dans 10 ans, dans 15 ans, quand la norme va évoluer, puisqu'elle va évoluer, en 2020, on va arriver sur les bâtiments BIPOS, c'est les bâtiments à énergie positive. Donc quand il va falloir se conformer à cette norme BIPOS, ben, l'isolation par l'intérieur ne sera pas suffisante. Donc il faudra rajouter une isolation. Donc les gens, ils vont dans 10 ans, ils vont rajouter une isolation par l'extérieur, alors qu'ils construisent aujourd'hui, qu'ils peuvent le faire directement aujourd'hui.
Tout à fait. Alors ça donne des coûts, peut-être. Il faut peut-être parler un petit peu de ça.
Ouais.
Différents. supérieure. Alors peut-être ce qu'il faut dire, c'est que sur l'habitabilité d'une maison de 120 mètres carrés, normalement, quand on construit, on a les murs de 120 mètres carrés, puis on rajoute à l'intérieur 20 cm de laine de verre ou d'un isolant. Donc on perd sur la surface de la maison quand même des mètres carrés non habitables.
Ouais.
C'est un peu dommage. Alors vous, votre système, justement, il pallie à ça, puisque l'isolation est sur l'extérieur.
Elle est sur l'extérieur, donc on gagne 7 à 8% de surface habitable. Hein, sur une maison de 120 mètres carrés à peu près, ce qui n'est pas négligeable. Hein.
Oui, tout à fait. Donc, on peut mettre des meubles en plus, avec toujours le même espace vital.
Voilà, exactement. Et pour un coût final qui n'est pas supérieur, puisque avec notre système, le bloc isostal, on a fait une comparaison de prix mur fini. Donc le mur fini avec le système isostal, ça revient à 144 euros hors taxe le mètre carré. Alors qu'avec le système traditionnel, c'est-à-dire un aglo, l'isolation par l'extérieur, l'enduit, le parement intérieur, on est à 154 euros le mètre carré.
D'accord, donc ça revient un petit peu moins cher.
Ça revient un petit peu moins cher, voilà, de l'ordre de 6-7% moins cher. Donc, mais même si on était à prix équivalent, au regard des performances qu'on apporte avec le bloc isosol, je veux dire, il n'y a pas photo, hein, comme on dit. Hein,
tout à fait, parce que je pense aussi qu'il y a une notion qui est rarement abordée, dans l'habitat, c'est l'investissement et le fonctionnement. C'est-à-dire que les gens voient, quand on construit, on est toujours pressé de construire, et puis on se dit, bon, j'ai 200 000 euros à mettre, mais 200 000 euros qui vont être pas vraiment amortis, même si on les amortit par les prêts, etc., on se dit pas ce que va coûter le fonctionnement d'une maison. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le vrai problème. C'est-à-dire que quand on parle d'énergie positive ou de maison passive, c'est ça, hein,
ouais, c'est ça.
C'est-à-dire qu'ils ne consomment quasiment rien. C'est ce que ça va nous coûter tous les mois. C'est-à-dire quand on met 150 ou 200 euros de chauffage ou de chauffage en général, ou d'électricité ou de consommables, c'est autant d'argent qu'on n'a pas à mettre dans l'isolation ou dans le chauffage qui nous permet de mieux vivre pendant les 30 ou 40 années dans lesquelles on va vivre dans cette maison.
Voilà.
Donc c'est vrai que les gens, il y a peut-être un calcul à faire là-dessus pour montrer aussi que c'est pas seulement un gain à la construction, c'est un gain au fonctionnement et à la vie dans la maison.
Voilà, ouais.
Puisque, et voilà, ça, vous l'avez mesuré un petit peu.
Les calculs généraux sont faits sur une durée de vie de 50 ans. C'est-à-dire qu'on considère que les gens construisent entre 20 et 30 ans et qu'ils vont vivre jusqu'à 80 ans. Donc sur une habitabilité de la maison pendant 50 ans. Et sur cette durée-là, le coût de la construction représente 30% du coût total de la maison pendant les 50 ans. Donc vous voyez que les 70% restants, ben, ce sont les coûts de fonctionnement, ce sont les coûts d'entretien. Ce sont les taxes, les taxes foncières, les taxes d'habitation. Ce sont aussi tous les impôts divers, les taxes de raccordement qu'on doit payer et le fonctionnement, c'est-à-dire l'électricité, le chauffage, et tout ça. Donc et les intérêts d'emprunt également. Donc vous voyez qu'il est plus intéressant de faire des économies sur ces 70% que sur les 30% de construction.
Tout à fait, mais ça, c'est pas assez expliqué, je trouve, quand on construit. Et aussi, la surface au mètre carré. C'est-à-dire que souvent, les gens se disent, bon, comme je l'ai fait d'ailleurs, je suis pas un exemple, mais j'ai construit une maison de 150 mètres carrés. On était 5. Puis aujourd'hui, j'aurais besoin que de 110 ou 120 mètres carrés, quoi. C'est-à-dire, j'ai 30 mètres carrés qui sont pas vraiment, franchement utiles.
Exactement.
Et que je pense qu'on construit surdimensionné. Alors souvent parce qu'on vient d'un petit habitat, un petit appartement, qu'on a besoin d'espace, donc on voit grand. Mais souvent, les 30 mètres carrés d'investissement qui correspondent souvent à environ 2000 euros, ça fait vite beaucoup d'argent qu'on pourrait mettre dans des systèmes constructifs beaucoup plus optimum ou dans un choix d'énergie de chaleur qui serait beaucoup plus efficace, quoi.
Ouais, plus renouvelable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, ces surfaces-là ont diminué, puisqu'aujourd'hui, la surface moyenne de construction en France, elle est de 110 mètres carrés.
D'accord.
Mais c'est vrai qu'à Lozère...
Oui, mais en même temps, là, on est dans l'agglomération, on est dans des espaces où le terrain coûte cher. C'est pas trop le cas encore aujourd'hui en Lozère.
Oui. Mais puis en Lozère, on est dans une région froide où on vit beaucoup à l'intérieur. Donc on a tendance à avoir des surfaces plus importantes. Ouais. Et c'est vrai que dans le Midi, ils construisent des maisons de 100-110 mètres carrés parce qu'ils vivent beaucoup à l'extérieur et ils font des grandes terrasses pour vivre à l'extérieur. Donc il y a aussi des modes de vie qui ont une grosse influence aussi sur les surfaces habitables. Et c'est vrai qu'en Lozère, on construit encore des maisons de 150-160 mètres carrés. Voilà, parce qu'on a 2-3 enfants, et puis les enfants...
Il y a de l'autoconstruction aussi beaucoup.
On les a pendant 15 ans, et puis au bout de 15 ans, les enfants, ils s'en vont, et on se retrouve seul avec des grandes maisons.
C'est ça. Ouais. Il y a beaucoup d'autoconstruction aussi en Lozère.
Il y a de l'autoconstruction.
Alors ça, Est-ce que c'est un produit qu'on peut faire en autoconstruction?
Bien sûr.
Je pense qu'il y a des gens qui seraient intéressés.
Bien sûr, puisque c'est très facile à poser. Hein. C'est l'avantage de ce produit-là, quoi. C'est qu'il n'est pas du tout technique. Hein. Bon, il faut savoir faire un aplomb, hein, c'est tout.
Un fil à plomb et un niveau.
C'est tout. Mais dès qu'on a fait la première rangée, dès qu'on a mis la première rangée d'aplomb et de niveau, après toutes les autres rangées, normalement, du fait de l'emboîtement.
Oui, c'est ça, c'est comme un Lego, quoi. Voilà, il suffit que la base soit plane.
Il suffit que la base soit bien faite. Ouais. Si la première rangée est bien faite, le reste, normalement, ça suit. Il n'y a
donc
pas de
problème.
Il
y a pas de dalle au départ, et puis. Voilà, ouais. C'est ça. Ouais. Ça se pose sur une dalle ou on peut le mettre.
Ça se pose sur une dalle, ça se pose sur des fondations, sur une longrine de fondation, voilà. Comme on veut. Quel que soit le système constructif de départ, on peut l'adapter.
C'est adaptable.
Ça s'adapte. À tout. Voilà.
Vous faites des formations par rapport à ça sur des particuliers ou à la chambre
Alors on va enfin,
au CFA
On va le faire. D'abord, on a prévu de faire des formations, mais en direction des professionnels, c'est-à-dire vers les maçons. On va faire des formations et des journées d'information pour les sensibiliser et puis leur apprendre à monter ça, parce que c'est très simple à monter. Donc une demi-journée pour apprendre à monter ça, c'est suffisant. Et donc, après, par la suite, évidemment, si des particuliers veulent se former ou veulent auto-construire leur maison, évidemment. Et puis, on pourra aussi les assister, justement, dans le départ de la maison, puisque c'est la partie la plus technique faire la première rangée. Et là, on offrira une assistance.
Vous avez prévu des seuils, vous avez prévu tout ce qui va avec le système constructif, c'est-à-dire les angles, les chaînages, les blocs de soubassement.
Voilà. Ce système constructif, l'avantage, c'est que avec un bloc, on fait également les blocs d'angle, on fait également les blocs jambages, on fait les chaînages de plancher, on fait tout avec le même bloc. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs éléments différents et donc d'avoir un stock important de matériaux. Donc on a aussi prévu de faire des linteaux qui soient adaptables avec ce bloc. On a aussi des coffres de roulis roulants qui vont s'adapter. On a aussi des appuis de fenêtres qui vont pouvoir s'adapter.
Par rapport aux fenêtres, puisque là vous êtes sur l'isolation extérieure, est-ce que vous avez pensé avoir des fenêtres qui se mettent en imposte, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur, comme le font les Suédois ou pas? Ou est-ce que ça reste des fenêtres qu'on met à l'intérieur?
Voilà, ça reste des fenêtres qu'on met, comme le système que vous avez ici, c'est des fenêtres qui se mettent au nu intérieur, c'est-à-dire que ce sont des fenêtres qui s'ouvrent à 180 degrés. Alors qu'avec le système traditionnel d'isolation par l'extérieur, aujourd'hui, les fenêtres sont posées en tunnel, c'est-à-dire en tunnel, on dit elles sont à l'intérieur du jambage et elles ne s'ouvrent qu'à 90 degrés.
D'accord.
Et ça, c'est un désavantage.
D'accord.
C'est un désavantage.
Mais par contre, on évite les pompes thermiques. Mais bon, avec les nouveaux matériaux des fenêtres, ça pose moins souci.
Ah ben là, on n'a pas du tout de pompes thermiques, puisqu'on a un retour d'isolant qui fait également 16 cm. Donc, on a vraiment un mur manteau de partout. Quoi. On n'a aucune pompe thermique.
Est-ce que c'est un matériau qu'on peut assembler avec d'autres matériaux? Par exemple, je veux faire un plancher bois, il n'y a pas de problème.
Il n'y a aucun problème.
Je fais un solivage en bois et
voilà,
et ça marche.
Il n'y a pas de problème. Ouais,
est-ce que je peux faire une reprise de construction en béton ou pas? Est-ce que ce n'est pas vraiment conseillé?
Une reprise de construction en béton
Par exemple, j'ai un mur en béton qui existe déjà et je veux m'appuyer sur ce mur. Est-ce que vous avez créé un système pour faire le lien entre la partie bois, partie bloc et béton.
Ouais, si vous avez un mur qui existe déjà, ce système-là n'est pas adapté, puisque ça vaut pas le coup de reconstruire un autre mur en béton devant ou derrière.
Rénovation, c'est pas intéressant.
Non, c'est pas du tout adapté pour la rénovation.
D'accord.
C'est un système qui est uniquement pour la construction
neuve.
Voilà. D'accord. Et donc, on peut construire avec ça, on peut construire des maisons individuelles, mais on peut aller sur du bâtiment collectif. Hein, c'est-à-dire sur du petit collectif à R plus 4, on peut aller.
D'accord.
Donc déjà,
R plus 4, c'est plus 4 niveaux.
Voilà, rez-de-chaussée plus 4 étages.
D'accord.
Donc ça fait 5 niveaux
totalité. Ça fait quoi en hauteur? Ça fait 10 mètres, 12 mètres?
Ça fait 13-14 mètres de hauteur.
C'est ça. Voilà.
C'est en général ce qui se construit en France. Construit très peu au-dessus de ça. Mais même avec ce système-là, on va le faire évaluer. On pourrait aller jusqu'à R plus 9, donc c'est-à-dire 10 étages.
D'accord. Avec les taux de compression, suffisant pour supporter...
Puisque l'épaisseur du béton, on a 15 cm de béton. Mais cette épaisseur du béton, elle est suffisante pour pouvoir construire 10 étages.
D'accord. Voilà. Vous nous parliez de l'isolation, la condensation qui ne se fait pas sur ce système-là, enfin qui permet...
Et non, puisque c'est un mur, on appelle ça un mur perspirant, c'est-à-dire c'est le mur qui respire de lui-même. Et le fait d'avoir une isolation par l'extérieur et un transfert de chaleur par l'intérieur, donc aujourd'hui on a un mur qui respire parfaitement et qui ne magasine pas l'humidité. Donc on ne risque pas d'avoir de moisissures à l'intérieur de la maison ou dans les angles ou autour des fenêtres comme on trouve traditionnellement sur les constructions avec isolation par l'intérieur.
La partie isolation acoustique vient de l'épaisseur de béton, c'est ça ?
C'est le béton, d'accord. Voilà. Comme on a 15 cm de béton plein, là on est largement au-dessus de la norme acoustique et donc là on est performant à ce niveau-là aussi.
Et on n'a pas des effets de réverb dans la pièce ou...
De
réverbération dans la pièce.
De réverbération des sons, vous voulez bien.
Hein, ouais. Une fois à l'intérieur, vu que ça fait une paroi un peu adiabatique comme ça, est-ce que ça résonne pas dans la pièce une fois que c'est construit ? Est-ce qu'on n'a pas...
Non. Comme dans toutes les pièces normales, après il faut meubler la pièce. Hein. C'est sûr que si vous laissez les pièces nues, avec n'importe quel matériau, vous avez des phénomènes de réverbération de son. Mais après, dès que vous meublez, dès que vous mettez les tableaux au mur, voilà, ce sont des capteurs de son et vous n'avez plus de problème. Voilà.
Vous avez fait des essais, vous avez créé déjà des bâtiments comme ça
ou... Pas encore.
Une maison, non,
pas encore, puisque là, on est encore dans la phase concept du produit. Et les premiers agglos vont sortir mi-janvier 2015. Donc on a fait fabriquer déjà les moules. Les moules doivent arriver la semaine prochaine. Et donc on va commencer la fabrication mi-janvier et on va construire les premiers bâtiments dès le mois de février.
D'accord. Vous avez des clients déjà pour faire
On a trois maisons à construire. Ouais.
D'accord.
Enfin, donc, on en a une qu'on va construire ici à Mende qui va nous servir de maison de témoin.
D'accord. À quel endroit on pourra la voir ?
Arieux Cross. Elle sera à Rio Cross, oui, mais on vous avertira quand on la construira, puisqu'on va faire un reportage audiovisuel dessus aussi pour montrer le système constructif. Et on va inviter les architectes et les maçons du département pour déjà leur montrer le mode constructif.
Et la réalisation, est-ce que ça peut donner en situation réelle, quoi ?
Voilà.
Ouais, d'accord. Ouais. Vous avez procédé à des tests aussi, un petit peu, sur le...
Pas encore. Du fait que le produit n'existe pas encore, on n'a pas pu faire encore tous les tests. Donc on n'a pu faire que les tests calculs encore. Mais des tests en situation, ils seront faits à partir du mois de janvier, dès qu'on aura les premiers éléments.
D'accord. Ça va demander quand même une certaine industrialisation,
oui.
Ce mode, si vous voulez le faire en sorte que ce concept se retrouve partout en France. Si tout le monde se met à construire, comment on fait ? On crée des entreprises en Lozère ?
C'est le but, puisqu'on a déposé un brevet national. Et
ma question aussi.
On a même demandé une extension européenne, parce que on espère que si ça marche en France, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans les autres pays, puisque déjà, eux, ils sont encore plus sensibles que nous à l'isolation par l'extérieur. Donc on a fait une extension européenne. Et donc on s'est aussi associé avec un gelvin bois moulé. Il ne faut pas oublier que c'est le leader européen quand même dans la construction des éléments en bois moulé. Hein. Donc il a
une capacité d'avion, tout ça.
Il a une capacité de production importante. Hein. Ouais. Donc après, finalement, ce sera à nous à nous adapter en termes de montage et de commercialisation à la demande. Hein. Si elle est importante, il faudrait que. On a prévu dans les 4 ans 18 emplois.
D'accord.
Voilà.
Pour la fabrication de ces...
Pour la fabrication, commercialisation, et l'administration.
Vous avez pris des contacts déjà, je suppose, avec des entreprises de matériaux ou pas encore ?
Alors oui, on a fait une étude de marché, évidemment.
Oui.
Tous les revendeurs de matériaux, les produits innovants, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils nous disent, les produits innovants, on ne commercialise pas parce qu'on attend qu'ils aient fait leurs preuves. Et ils nous ont dit, on vous commercialisera une fois que vous aurez fait vos preuves, une fois que le produit marchera. Ce à quoi je leur ai répondu, mais
une fois qu'on aura la demande, en gros.
Une fois qu'il y aura la demande
et, pas de prise de risque.
Et qu'on sera sûr de vendre, ce à quoi on leur a répondu, si on est capable de vendre le matériau et de le commercialiser, on n'aura plus besoin de vous à ce moment-là, quoi. Donc on continuera à le commercialiser tout seul.
C'est vrai que c'est un petit peu, c'est ce que je dirais, c'est-à-dire qu'entre les professionnels qui ont peur pour la garantie des décennales de s'engager sur des matériaux. Innovant plus les revendeurs, en France, on n'est pas...
C'est un véritable frein à l'innovation.
C'est ça, ouais, c'est ce que je pense. C'est vrai frein. Sur l'énergie, c'est vrai sur plein de trucs. Voilà. Quoi.
C'est que personne ne veut prendre
de retard. On a 10 ans de retard ou 15 ans de retard sur la Belgique,
exactement.
Sur les Allemands, sur beaucoup de pays. Voilà. Quoi. C'est dommage. Alors c'est vrai qu'il y a ce risque quand même. Est-ce qu'il y aura une garantie sur votre
Il y aura une garantie décennale, évidemment. Ouais,
d'accord.
Elle est obligatoire dans le bâtiment. Ouais. Pour commercialiser un produit, il faut qu'il y ait une garantie décennale.
Et vous trouvez des
donc
assureurs
pour... elle y sera, ouais. Elle y sera, la garantie d'essai là. Mais malgré ça, voilà, les revendeurs ne veulent pas prendre le risque de stocker chez eux et d'informer le client sur tel produit tant qu'il ne marche pas.
Donc on reste sur du traditionnel et sur des fonctionnements voilà. À 70% et 30% en investissement.
Voilà.
Et on n'avance pas. C'est bien dommage.
Et on n'avance pas. Et on est un des seuls pays européens à construire avec un système constructif qui est obsolète.
Voilà. Ben on l'a vu sur le monomur. Hein, ça a pris beaucoup, beaucoup d'années. Alors que dans le nord de la France, nord-est de la France, on construit comme ça depuis très, très longtemps.
Voilà, les Alsaciens construisent comme ça depuis 40 ans, quoi, c'est ça. 50 ans.
Mais bon, c'est l'influence allemande, en fait. Hein.
Exactement.
Alors que dans le sud, on ne fait pas ça.
Voilà, ils ont un système de fonctionnement comme les Allemands ou les Alsaciens. Donc, eux, l'innovation, ils connaissent depuis longtemps. Quoi.
Alors, messieurs, vous pensez construire un jour avec ce système-là ?
Avec ce système ? Avec ce système ou un autre ?
Ben, je sais pas, non, ça vous a intéressé, la discussion autour de ça ?
Ouais, le système de l'isolation extérieure, surtout, comme... Voilà, je pense que c'est un débat qui a lieu d'être en France et qu'il faut absolument soulever. Et ça fait, à mon avis, des années qu'on en parle, et heureusement qu'il y a des gens qui commencent à se mettre à essayer de proposer des solutions, quoi. Voilà.
C'est vrai que sur le bâtiment, il y a une nécessité, je pense, d'innovation. On voit par exemple des projets comme aux États-Unis où il y a déjà des prototypes de construction avec des imprimantes 3D version géante où on arrive à construire une maison très rapidement sur la France.
Des maisons en béton avec des imprimantes 3D quoi.
Ouais, qui font du béton, ouais.
Ouais, qui coulent du béton comme.
Ouais.
C'est incroyable ce système.
Je pense qu'en France on a des progrès à faire sur la construction, sur des maisons passives qui permettent justement d'avoir un moindre coût après dans l'utilisation, comme disait, de la maison, les coûts de fonctionnement.
Là, il faut pas parler de coûts avec les constructions, pas l'imprimante 3D, parce que c'est des plusieurs millions d'euros pour construire ne serait-ce que les murs de la maison. Hein. Donc c'est pas encore démocratisé comme
voilà,
système.
C'est juste un projet, mais
on est encore sur des prototypes, on va dire ça comme ça.
Ouais, hein, ouais,
c'est ça.
Ouais.
Est-ce qu'on a droit à des crédits d'impôt en construisant avec votre système, ou qu'est-ce qu'il y a actuellement qui pourrait permettre aux gens de s'orienter vers votre système constructif?
Mais aujourd'hui, dans le système français, les crédits d'impôt, ils sont réservés à la rénovation, à la restauration, c'est-à-dire quand on rapporte de l'isolation, quand on change des vitrages ou quand on change des fenêtres, c'est-à-dire quand on améliore la qualité énergétique du bâtiment. Mais sur les constructions neuves aujourd'hui, on part du principe qu'une construction neuve, elle doit être adaptée à la norme existante. Elle doit se construire comme la RT 2012. Et donc, il n'y a pas lieu d'apporter des aides. Donc,
il n'y a que l'aide sur le...
C'est l'éco-prêt à taux zéro.
Voilà, c'est ça.
C'est l'éco-prêt à taux zéro.
Qui a été plafonné, qui est supérieur maintenant, je crois. Bon, c'est lié au revenu fiscal.
Elle est liée au revenu fiscal, voilà.
De la famille.
Du constructeur, du couple, ouais.
D'accord. Très heureux de vous avoir accueilli. Très fier aussi qu'en Lozère, des gens aient des concepts et vont au bout de leur concept avec des brevets, en espérant que ça donne, fasse des petits.
Oui, en Lozère, on peut innover, on peut créer.
On n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
Voilà, exactement.
Une dernière question, peut-être, Julia ?
Non, je voulais te remercier d'avoir animé cette émission pendant que j'étais à la piscine. Et vous remercier aussi, Jean-Claude. Et
merci
puis,
à
on
vous.
Va peut-être faire une pause musicale et puis on reprendra avec les garçons de Safe Project.
Tout à fait.
For the storm, go away and go.
48 FM Le Mag. Nous sommes de retour dans ce Mag de 48 FM, toujours en direct. Donc après avoir parlé innovation avec Jean-Claude Lacaze, nous allons parler cinéma et plus particulièrement de court-métrage avec l'équipe de Safe Project, donc avec nous Pierre, Rémi et Vincent.
Bonjour.
Salut.
Alors est-ce que vous pouvez commencer juste par présenter votre association, ce que vous faites, combien vous êtes?
Alors notre association, elle s'appelle Safe Project. Elle...
Mais ça vient d'où ce nom-là, Safe Project?
Alors c'est une longue histoire. C'est un logiciel qui s'appelle Adobe Premiere Pro et en fait quand on enregistre, ça fait Safe Project. Voilà.
Sur le premier montage.
Sauvegardons le projet. Exactement.
Ouais, c'est une belle métaphore. C'est pas mal. Bien vu, ça. Les gars.
Et du coup, voilà, donc ça fait 5 ans qu'on est en Lozère, qu'on fait des vidéos en Lozère.
On est sur, principalement de l'autoproduction, sur des choses faites maison, bon, avec une envie de faire quand même un rendu professionnel à la sortie, de mutualiser les compétences pour pouvoir faire quelque chose qui donne une...
Mutualiser les compétences,
wow. Ça te plaît, ça, Nicolas?
Super, ça.
C'est ton domaine, ça.
Non, l'idée, c'est de voir dans notre entourage qui peut apporter des choses au projet qu'on a, au délire qu'on a, aux envies qu'on a de faire un film et de pouvoir les concrétiser avec ces compétences-là, quoi.
Mais c'est d'abord un projet de pote, ça, non?
Ouais.
À la base.
Oui, mais c'est toujours.
Bon, c'est vrai que les assos, ça démarre souvent comme ça, hein, des projets entre potes. Bon, on se constitue en association pour avoir un cadre légal. Et vous, votre cadre légal, donc, c'est l'association Safe Project. Et derrière, il y a plusieurs types de projets, mais qui concernent quoi? L'infographie, la vidéo, le cinéma, le son. C'est quoi exactement?
En fait, à la base, c'est parti d'un projet vidéo, d'un court-métrage. Et en fait, après, on se sert aussi de tout notre entourage parce qu'on a beaucoup d'amis qui font de la musique, etc. Et donc, du coup, c'est de lier un petit peu...
T'as beaucoup d'amis?
J'en ai quelques-uns. Déjà, j'en ai deux autour
sur
de
Facebook
moi.
Sur Facebook ou des réels?
Je préfère quand je peux
des réels, quoi.
Leur parler et leur mettre des petites claques derrière la tête. Mais non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une envie, en fait,
de créer des projets, c'est ça, de vous retrouver autour de projets communs.
Voilà, c'est ça, et aussi de faire le palier entre la musique, la vidéo, etc. Et donc,
d'accord.
Voilà.
Vous n'êtes pas salarié de cette association?
Non,
non.
C'est une passion que vous avez tous les trois et.
C'est ça.
D'accord. Voilà. Il y a beaucoup de, je sais pas si, de bénévoles dans votre association, beaucoup de gens qui vous supportent,
qui arrivent à vous supporter. Alors, qu'elle voulait dire, hein, qui arrivent à vous supporter.
Non, Nicolas, vous suivent dans vos projets.
Alors actuel, on n'est pas beaucoup de bénévoles. Enfin, on a des bénévoles, on n'a pas d'adhérents, comme on peut entendre dans les associations, dans le cadre légal. Ça viendra. Parce qu'en fait, l'association, ça fait, comme on disait, ça fait 5 ans, mais ça fait, pendant 3 ans, on a mis un peu en stand-by parce qu'on avait un projet de film qui nous a pris beaucoup de temps. Et donc, du coup, là, on remet à jour l'association. Donc, on espère avoir des adhérents qui souhaiteront participer à nos futurs projets. Voilà.
Vous avez des formations, vous, dans l'audiovisuel ou c'est juste.
C'est quoi vos origines légales, professionnelles?
Professionnel, on a fait. Moi, j'ai fait des formations du visuel. Après, moi, je fais de la vidéo depuis que j'ai 13 ans. C'est vraiment de la passion.
Un peu comme Spielberg, c'est ça? T'as une petite caméra et tu es partout quand tu
es. C'est ton fils spirituel, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Un peu comme Spielberg, peut-être. J'ai peut-être son talent, quand même. Mais c'est vraiment de la passion. Après, on bouffe beaucoup de films et de séries. Donc, du coup, c'est notre école à nous. Complètement autodidacte. Hein. Et de faire vraiment, c'est la meilleure école d'apprendre sur le tas pour faire un film.
C'est la nôtre d'école, quoi.
Voilà.
De faire sur le
d'accord.
tas.
Mais du coup, le fait que vous n'ayez pas beaucoup d'adhérents, c'est un peu normal puisque vous n'avez pas une activité, on dirait, quotidienne. Vous travaillez sur des projets. Donc, c'est vrai que c'est. Votre façon de faire n'amène pas à ce fonctionnement-là. Par contre, donc vous avez créé déjà plusieurs films, c'est ça?
Ouais, des courts-métrages et des clips.
D'accord.
Et vous, en fait, vous faites tout. Vous faites de l'écriture, réalisation, post-prod, vous faites tout.
Ouais, la pré-production, la production et la post-production. Tout. Voilà.
Ouais, on fait tout.
Vous avez créé quoi alors ?
Alors, on a créé plusieurs. Ouais. En fait, on a créé beaucoup de vidéos pour le web, principalement. On a fait donc notre premier film qui s'appelle Entre Chien et Loup, qui a été le fondement de l'association en 2009.
Donc c'est un projet qui a pris pas mal de temps. Hein. Enfin, je me souviens, Pierre m'en a parlé pendant...
Ça a pris un an en tout.
Un an, c'est ça ?
Voilà.
Ouais, à peu près un an entre le fait de tourner, le fait de faire le montage derrière. C'est vrai que, bon, on a tous une activité à côté, on a tous un travail. Donc l'idée, c'est de le faire quand on a le temps, quand on a la possibilité. Donc ça a nécessité des fois de prendre sur le temps personnel beaucoup pour arriver à avancer, pour arriver à finir... ce projet-là, quoi.
Et c'est pas compliqué, justement, d'être sur tous les fronts ? Est-ce qu'il n'y a pas un souci, après, d'objectivité ? Est-ce que c'est pas compliqué de... Enfin, j'imagine que quand on l'a écrit, quand on l'a tourné, quand on le retravaille après, au bout d'un moment, il y a une overdose. Et soit on part dans le « c'est génial », soit c'est catastrophique, mais ça doit être assez compliqué de gérer, non ?
C'est assez compliqué, ouais. C'est assez compliqué d'avoir du recul sur ce qu'on fait. Après, quand on écrit quelque chose, on arrive à avoir le recul de ce qu'on écrit pour savoir ce qu'on veut faire après. Donc on est assez content d'arriver à faire, de finir un film en se disant ah, ça ressemble à ce qu'on a écrit, quoi. C'est ce qu'on voulait. Donc là-dessus, bon, ça va. Après, de tout faire, c'est assez compliqué. Normalement, on ne fait pas tout. On se répartit les tâches quand même. Nous, on sait tout. Enfin, on arrive à faire tout un peu les postes, mais... dans un film, on ne peut pas faire un film tout seul. On est obligé d'être une équipe. Hein, et
l'équipe avec un directeur artistique, non ? C'est qui le directeur artistique ?
Ben, il n'y en a pas vraiment, en fait.
Il y a trois têtes.
Selon les projets, en fait, ça va être selon les envies. C'est-à-dire que si quelqu'un a écrit, il va être plutôt direction artistique et donner ses envies, ses lignes de conduite. Après, chacun apporte aussi, je pense, au fur et à mesure des étapes, des idées et un complément, quelque part, à cette idée première qui est le scénario.
Et vous faites, je sais pas, est-ce que vous demandez un regard extérieur à vos amis, justement ?
Bah ouais, en fait, ce qui se passe, on essaye de travailler un maximum avec les gens qui nous entourent, même si c'est pas forcément des gens, du coup, qui sont dans l'association et qui sont adhérents, pour l'instant, en tout cas. Mais on essaye de composer au maximum avec les gens qui nous entourent, les gens qui créent aussi, du coup, musicalement, qui ne créent pas forcément, et donc, du coup... qui ont un regard un peu plus, on va dire, un peu plus objectif, comme tu disais.
Critique. Voilà. Hein.
Critique. Oui.
Vous avez un style un peu particulier, je vois, swing, trash, comique. C'est quoi ?
Alors, swing, c'est parce qu'on aime beaucoup faire des clips, parce que c'est un format qui est très libre, qui peut partir de l'abstrait jusqu'à raconter une histoire. En fait, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et après, trash comique, parce que toutes nos vidéos gardent un ton comique. Et trash, parce qu'on aime beaucoup les films de genre, la SF.
Tarantino, tout voilà. Ça, quoi.
Ouais, nous, le film de genre Tarantino, non. À mon avis, nos principales...
Kill Bill, tout ça.
Nos principales, à mon avis, nos principales influences, ce serait plutôt les frères Coen, Terry Gilliams, etc.
Bon, Tarantino aussi. Tout ça. Ouais.
Voilà.
Michel Gondry.
Voilà. Gondry aussi, qui a un côté do it yourself qui est vraiment présent dans... Ouais. Dans la vidéo qu'on peut faire, de se dire, bon, voilà, on a peu de moyens, mais on va essayer de faire quand même quelque chose d'artistique et de. Avec un rendu, on va dire, professionnel, avec peu de moyens, quoi.
Il y a une exigence, oui, c'est ça. Oui. Alors, sur Entre Chien et Loup,
Oui. Non, mais parce qu'en fait, du coup, pour que les gens se fassent un peu une idée de ce que pouvait être le swing trash comique, j'aimerais bien que tu nous passes un extrait d'un court-métrage que vous avez réalisé qui s'appelle La sottise du chaos.
Qu'est-ce que je suis, quoi.
Qu'est-ce que vous faites là ?
J'ai toujours été là.
D'accord. Et vous avez pas une indication, un chemin, là, que je puisse retrouver la civilisation ?
Ce sont les discordiens qui signalèrent que dans la longue liste de dualisme qu'aimaient employer les occultistes, les opposés sérieux et humour avaient été mis de côté. L'humour est important dans la magie du chaos. Comme l'a dit une fois Janet Cliff, nous sommes trop importants pour nous prendre au sérieux.
Ok, merci. Et pour le chemin, peut-être ?
Ben mon gars, on se réveille ? Tiens, lave tes cheveux. Sont tout propres. C'est moi qui les ai lavés. Moi, je chasse l'écureuil. C'est bon, les poils d'écureuil. Il y a l'écureuil de Sardaigne, l'écureuil à roupette, Et moi, celui que je préfère. Hé hey, c'est l'écureuil de... Wolfenstein.
Putain, mais c'est le chaos ici, quoi.
Je sais pas si tu dors, Christopher, mais pour trouver le chemin, il suffit de suivre la voie des écureuils.
J'adore cette dernière phrase.
Ben ça, en fait, ça résume bien notre première en fait inspiration. C'est l'absurde beaucoup, voilà.
L'absurde, ouais. Puis d'avoir des personnages qui sont un peu des losers magnifiques, quoi, quelque part, des gens qui ont pas d'emprise sur leur environnement, mais qui arrivent à se débrouiller malgré ça, qui arrivent à avancer avec leurs moyens, leur façon de faire, quoi.
Leur façon de faire, ouais, c'est ça.
Comment se fait l'écriture d'un scénario comme ça? Comment vous procédez?
Alors tout dépend. Alors la Sottise du Chaos, c'est un peu un concept qu'on a fait. On a écrit à plusieurs le scénario. On était tous les acteurs qui jouent dans le film ont écrit le scénario, donc il y a plusieurs scénaristes. Après tout dépend des films. Moi j'ai écrit quelques films. Entre Chien et Loup, par exemple, on l'a réalisé avec Rémi. On a été co-réal. Et quand on écrit, ben je sais pas, après c'est...
En fait, il y en a un qui sort un projet de sa tête, il en parle aux autres, et puis après, en fonction de si c'est réalisable ou non, on voit comment ça se passe.
Vous construisez un petit peu l'histoire,
voilà.
D'accord.
C'est ça. En général, ouais, ça... Enfin, de toute façon, en général, ça part toujours au moins d'une personne, ou de deux, mais on est toujours à tous à suivre derrière, quoi. Après, on sait se donner chacun nos places, justement, pour pas se manger les uns les autres, parce que, comme disait Vincent, quand on construit un film, eh ben, il faut que chacun ait une place définie. Et on a besoin de... En fait, toutes ces places ont une importance capitale. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit qu'il y aura plus de place que la personne qui va être derrière la caméra, etc. Et donc, voilà. On essaye à chaque fois de se donner des places et de pas trop en sortir pour pouvoir avancer. Voilà.
Oui, c'est chouette. Et donc, ça fait, vous disiez, 5 ans que 5 ans, ça se fête. Donc, vous allez nous proposer une soirée projection le 19 au soir à la salle du Robin 5, je crois.
Ouais. Exactement. C'est un événement qui nous tient à cœur, en fait, parce qu'on va faire, on va projeter toutes nos vidéos sur grand écran, donc nos clips et les courts-métrages. Et on va avoir un retour... concret de gens, parce que sur le web on n'a pas ce retour, notamment pendant que les cours vont être diffusés, on aura des réactions de gens, et ça pour nous c'est vachement important. Et du coup d'avoir un retour et de discuter avec toutes ces personnes, ça pour nous c'est important. Voilà, donc c'était un point qu'on voulait faire, c'est pour ça que cette projection pour nous, elle est importante.
Voilà. Il y a la possibilité aussi de voir en fait des courts-métrages donc, qui n'ont pas encore été diffusés sur Internet, de revoir aussi...
Parce que ça, c'est un choix de votre part de tout mettre sur Internet ou on ne trouve pas tout ce que vous avez fait?
Ouais, je pense que la diffusion est importante parce que ça permet de donner un regard extérieur assez rapidement sur ce qu'on fait.
En nombre de vues, c'est ça?
En nombre de vues,
en commentaire.
En commentaire.
C'est... Oui, voilà, moi, c'est savoir. Ça qui me surprend, ce que tu disais, Vincent. Il y a quand même, justement, avec le web, maintenant, il y a beaucoup de possibilités, justement, de faire des retours sur ce qu'on voit, etc. C'est pas une matière suffisante? Enfin, suffit.
Si, c'est vachement bien, mais c'est aussi bien d'avoir des retours humains, on va dire.
Ouais, enfin,
un contact direct. Quoi.
Des contacts directs, c'est ce qu'on n'a jamais eu, en fait. Ouais. Donc,
le but de la soirée, c'est ça aussi, c'est de relancer l'association sur de nouveaux adhérents, sur des personnes qui vont pouvoir participer au projet, qui seront informées, qui auront la possibilité de venir sur les prochains tournages qu'on peut faire et d'être dans la vie de notre association, quoi. Et de pouvoir discuter avec eux directement, ça permet de voir au plus long terme, alors que je pense sur le retour qu'on peut avoir sur Internet, c'est sur le film qu'on a vu, on va réagir, mais on va pas essayer de voir plus loin sur l'association, sur comment on pourrait y participer. Et là, le petit buffet qu'il y aura à la fin, ça permettra justement d'avoir cette discussion.
Ah, il y a un buffet à la fin?
Ah oui, il y a un buffet.
un petit buffet.
Ah, il y a bien un petit buffet.
Et puis c'est de voir aussi tout sur grand écran comme au cinéma, ça nous intéresse aussi, c'est assez cool.
Ouais, c'est sûr, c'est pas le même format.
Voilà. Et en parlant de cinéma, j'ai vu que sur votre flyer, il y avait un nain, c'est une déclaration d'amour à Amélie Poulain.
Alors non, rien à voir avec Amélie Poulain. Non, en fait, ce qui se passe, c'est
ou au nain.
Plutôt au nain de jardin.
Ou au nain de jardin, peut-être.
En fait, ce nain, il nous suit depuis le début, en fait. Depuis qu'on est parti au Offshore, c'est un festival indépendant de courts-métrages. Et en fait,
à quel endroit c'était ?
C'est à côté de
en Picardie, ouais.
On avait projeté Entre Chien et Loup.
Voilà, on a projeté Entre Chien et Loup là-bas. Et en fait, en partant sur ce festival, on a fait un court-métrage qui s'appelle Pleure pas Blanche-Neige, tu l'as reverras tes nains. Et en fait, ce nain nous a accompagnés tout au long du trajet. Et il a participé, du coup, en grande partie au court-métrage, aux inspirations. Et donc, du coup, c'est devenu un
peu
une
effugie. C'est votre muse, quoi,
c'est ça ? Voilà, c'est notre muse, ouais. C'est notre muse absurde à nous, voilà.
Ouais. Bah, je crains le pire, hein, parce que les films avec des nains.
Et ben justement.
Il y a le Seigneur des.
C'est Seigneur super, des Anneaux. Seigneur des Anneaux, qu'est-ce que t'as ?
Ah non, non, mais moi j'adore. Tu te calmes, Nicolas. Tout ça, je trouve ça super. Mm. Ça vous inspire pas, ce genre de film, un peu fantasy et tout ça ?
Ah, si, mais il faut
des
budget.
Là, il faut des
sous. Et puis il faut des ailes. Regarde les Monty Python. Toi qui es assez fan des Monty Python, les premiers films des Monty Python, ils avaient rien.
Ah oui,
Peter Jackson. Ils avaient deux noix de coco et.
Peter Jackson aussi. Les premiers films de Peter Jackson étaient faits avec très peu de sous. Donc, comme quoi, il faut faire des choses. Il faut essayer. Voilà.
C'est peut-être ça, l'intelligence, hein, dans le cinéma.
Non, mais c'est l'idée de partir sur l'autoproduction, de pas attendre d'avoir des moyens, de grands moyens, en fait, pour faire du cinéma, juste d'arriver à réaliser nos idées et de leur donner, même avec les petits moyens, un rendu qui est ce qu'on a envie au départ. Et d'arriver, voilà.
Mais justement, c'est aussi le but de la projection, c'est de pouvoir aussi un petit peu discuter avec les gens, qui nous donnent d'autres ouvertures, et peut-être aussi d'avoir du coup des adhérents qui pourront du coup nous ouvrir vers d'autres choses, et voilà quoi.
Mais justement,
de
pour
donner compétences, ouais.
Oui, pour donner aux gens envie de venir, peut-être un second extrait donc de Pleure pas Blanche-Neige, tu les reverras tes nains. Surprenant.
Première bagnole que je vois, bien sûr, il y a quelqu'un dedans. T'es qui toi ?
Moi, je suis Fafa. C'est pas ma voiture, hein. Du moins que tu me déposes où je veux, moi ça me va.
Ben ça me va aussi, très bien. Allez, on se casse. Je m'appelle Maximilien. Je suis naniste. Nous croyons en notre dieu, Nimpi.
C'est marrant, le trou, il y avait plein de nains.
Je vais à Abbeville, là. Le plus grand rassemblement de tous les temps de nanistes. Le meilleur endroit pour te convertir en notre cause, Fa.
Ben, je vais à Abbeville aussi. Ça a l'air marrant, ton truc. Je vais venir, je crois.
Oui, évangile selon Pi, verset 3 à 14. Ô grandeur, nous serons âme et corps, fils de la splendeur d'esprit de Nimpi, à la dévouance spirituelle de notre Père et Grand Seigneur de nos êtres perdus. Notre foi est grande en Nimpi et nous apporte la lumière sacrée. Ô nain, nous te rendons grâce, même dans les pénombres des ténèbres et le scintillement de l'arc-en-ciel. Nain, notre guide, nous te suivrons jusqu'à la mort. Amen.
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 Amen. Donc ça, c'était Pleure pas Blanche-Neige, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, ouais. Qui a été tourné la question.
Ça en dit long, c'est sûr. Hein. Mais comment se font ces créations et avec quels moyens, en fait ?
Alors, celui-là, c'est fait avec une caméra à 80 euros et c'est tout.
Voilà. Et en plus, dans une voiture qui était pleine à craquer, parce que le concept du off-short, c'est d'amener son lieu de projection. Donc on avait la grande tente camping dans laquelle on projetait. On avait le vidéo proche et tout le matériel. Et on avait à peine la place de s'asseoir derrière, mais on a réussi quand même à tourner l'intérieur de la voiture avec ce peu de place. Enfin voilà, pour la petite anecdote, ça a été. On le voit pas sur la vidéo, mais c'était avec des petits moyens toujours. Et puis dans le do it yourself, quoi. C'est vraiment le mot d'ordre, je pense.
De Safe Project.
De Safe Project, l'autoproduction et faire avec les moyens du bord, quoi.
Comme quoi l'objectif fait pas la qualité du travail final. Non, ça, c'est une petite
merci.
avec Pierre.
Ah, vous avez médité là-dessus, vous avez 3 heures, les gars.
Très bien.
6 pages.
T'as un stylo, s'il te plaît.
Combien de courts-métrages au total ?
Alors là, on projette 13 courts-métrages et clips. Il y aura 13 vidéos, dont.
Non, mais combien de vous ?
En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs. Il y a déjà deux catégories. Là, nous, ce qu'on va projeter à la projection, c'est des vidéos qui ont été vraiment produites par Safe Project et pour Safe Project. Et en fait, à côté, on a aussi une autre catégorie où on a fait des collaborations avec un groupe de rap, avec Midnight, avec 48 de cœur, Maximum, et puis Bigarance. Voilà. Donc ça, ce sera pas projeté parce que c'est pas vraiment, ça nous appartient pas complètement. Donc voilà.
D'accord. Et justement, en parlant de collaboration, on va écouter une chanson qui fait partie de la bande originale de Entre Chien et Loup qui s'appelle Blood Motion.
<t'->
Un très beau morceau, je trouve.
Ouais, c'est...
C'est planant. C'est...
Ouais, ça plane, hein. C'est pas mal. Ouais. C'est composé par qui ?
Par moi.
Vincent.
Ouais, Vincent, balèze. Seul à la gratte ?
Non, avec mon groupe.
Avec ton groupe ?
Voilà.
Et justement, toutes les musiques que vous utilisez, là, comment ça s'est passé ? Les groupes vous ont cédé les droits ?
Alors, pour la, pour la bande originale d'Entre Chien et Loup, ouais, c'est... Il y a beaucoup de morceaux qui ont été carrément composés pour le film. Après, on a récupéré quelques morceaux de certains groupes qui nous ont laissé les droits. Donc, c'était plutôt cool.
Super.
Alors, Jean-Claude, avec une petite question à poser, voilà.
Oui, oui, aujourd'hui, la vidéo est un vecteur de communication important, hein, tout le monde le sait. Est-ce que vous envisagez, dans un futur proche ou un petit peu plus lointain, de vous diriger vers le clip commercial ou...
Alors, moi, j'en fais... pas du tout avec Safe Project, je fais un peu de vidéos corporate pour des entreprises. Et...
Vincent.
Voilà.
Mais ouais, bien sûr, pourquoi pas.
C'est intéressant parce que ça apporte des financements.
Ouais, bah ouais, exactement.
Ça peut vous permettre de...
Après, il faut trouver les contrats, il faut trouver les...
Le prochain clip pour Innomur.
Voilà. Bah ouais.
Bah carrément.
Pourquoi pas.
Avec plaisir.
Ou alors passer par des partenaires, non ?
Oui.
Non. Alors, justement, bah, pour en revenir vers ces partenaires, en fait, on a été aidé par plusieurs personnes, même si on fait quelque chose qui est toujours autoproduit et sans moyens. Il y a la Ligue de l'Enseignement qui nous a toujours filé un petit coup de main, AFA Multimédia et les Écrans de Lozère, donc voilà. Et la Drive aussi pour le premier film, donc Entre Chien et Loup. Donc même si on reste super indépendant, on aime s'entourer et aller chercher un petit peu tout ce qu'il y a autour de nous et tous ceux qui pourraient nous aider. Voilà, c'est ça. On ne reste pas fermé sur notre association. Voilà, essayer d'aller piocher un peu à droite, à gauche aussi.
D'accord. Et donc pour vous aider, on peut aussi venir voir vos courts-métrages vendredi soir.
Ouais, ouais, venez nombreux et nombreuses.
L'entrée est payante ?
Oui, c'est ce que j'avais demandé.
Alors l'entrée, c'est juste l'adhésion, en fait, plus un prix libre pour les gens qui veulent donner un petit peu plus, quoi. Mais c'est principalement l'adhésion qui donne droit donc à être adhérent sur l'année, la possibilité sur les prochains événements d'avoir des tarifs préférentiels, on va dire.
Des dédicaces, des affiches, des posters, des teasers. Ouais.
Non, et puis d'être
la primeur des teasers, une invitation à la première, ça.
D'être informé surtout sur les prochains projets que fera l'association, sur de pouvoir être figurant, de pouvoir apporter des compétences, de pouvoir venir, quoi, et puis de participer au projet de l'association, tout simplement. Quoi.
Et c'est combien ?
5 euros. Ah.
5 euros, du coup.
D'accord, adhésion de 5 euros, ouais.
Et le plateau de fruits de mer est compris.
Voilà,
ouais, voilà, exactement.
Ça fait 3 semaines qu'ils traînent.
Ouais, ça sera peut-être pas trop frais.
Mais... Ils ont été les pêcher eux-mêmes.
Et est-ce que vous avez pensé, dernière question, est-ce que vous avez pensé à du crowdfunding, c'est-à-dire du participatif, comme ça People.
Oui, mais on a...
À déposer sur Ulule ou sur des boîtes comme ça pour vos projets, parce que ça marche quand même assez bien, ce genre de truc.
Ouais, ça marche vachement bien.
Ça a été le cas pour l'album du groupe de Vincent, Bye Bye Traders.
Ouais, ça, on l'a fait pour mon groupe. Mais après, pour la vidéo, on voulait le faire pour notre prochain film. Donc, on risque de le faire.
Vous avez des projets, vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Ouais, on a plein de projets vidéo, on a des courts-métrages en préparation... Une web-série.
Ouais, une petite web-série sur le steampunk. Le projet qu'ont écrit Vincent et Rémy.
Les Astronomiques Atomes d'Eliott Frange. Donc ça, c'est toujours dans les...
Dans les cartons.
Dans les cartons.
Starting blocks.
Voilà, dans les starting blocks, exactement. Après, on a plein de petits projets. On va aussi mettre en place sûrement des ateliers de formation. Enfin, de formation, des ateliers pour apprendre à faire des films, des petits films. Mmh. Voilà, ça c'est quelque chose qui me botte très bien. Voilà.
Mmh. Et puis pourquoi pas du coup des vidéos corporate. Voilà.
Super.
Voilà, l'appel est lancé. Donc si vous avez des envies, des besoins, déjà venez les rencontrer vendredi 19, donc à
Urbain 5.
À 20h30 à Urbain 5.
20h30 à Urbain 5 pour la modique somme de 5 euros avec un buffet garni et beaucoup de présentations. Je pense une super soirée.
Et deux exclus vidéo.
Voilà. Merci beaucoup à vous. C'est super d'avoir des jeunes. Est-ce qu'il y a un côté made in Lozère là-dessus ?
À fond. Bah, en fait, toutes les vidéos qui vont être présentées durant la projection du 19 sont faites en Lozère. Voilà.
Donc vous voyez, sur cette émission, on a un concepteur. Quelqu'un qui brevette un nouveau concept pour fabriquer des murs et des maisons, et puis des jeunes, donc les générations à venir qui sont pleines d'idées et pleines de talents. Donc on vous souhaite à tous d'abord de très bonnes fêtes, et puis que vos projets se réalisent.
Voilà. Oui, merci.
Bonne année à tous. Et on se retrouve, Julia.
On se retrouvera le 6 janvier parce que là, on va faire une petite pause de 2 semaines. Et si on vous rappelle que l'émission sera réécoutable et podcastable dès cet après-midi sur 48fm.org. Et puis voilà, bonne année, bonne santé et beaucoup de chocolat.
À bientôt.
48FM Le Mag.
Le Conseil Général soutient la diffusion culturelle tout au long de l'année en Lozère. Retrouvez sur culture.lozère.fr toute la programmation, les possibilités de pratiques artistiques, des reportages et des jeux pour gagner des places, abonnements et divers lots. Le Conseil Général de la Lozère vous présente les saisons et les événements culturels du département sur 48FM.
Agenda culturel du mardi 16 au lundi 22 décembre. Du théâtre, avec Le métier d'homme, le petit format. C'est le livre Le métier d'homme d'Alexandre Jolienne qui est à l'origine de ce spectacle. Et plus précisément, le récit autobiographique de cet homme, né infirme moteur cérébral, qui livre ici son parcours hors du commun, entièrement construit grâce à la philosophie. Dans le cadre du festival Art des Sens 2014 et suite à sa création à Mende en mars 2013, le spectacle Le métier d'homme revient dans un petit format jouable dans tout type de lieu. Cette forme légère du spectacle est une lecture mise en espace et mise en œuvre d'après la version originale avec l'œil bienveillant et avisé de Christophe Chaumette et Christophe Plangéro. Le spectacle est gratuit à partir de 12 ans et proposé par le théâtre Samouraï. Il sera joué le mardi 16 à la salle des fêtes de Merveilles à 20h30.
Mardi 16, toujours. Supergro Flora, quelle nouvelle dimension vous offre la projection du documentaire « Quelques raisons d'espérer ». C'est un documentaire qui trace un portrait de Pierre Dansereau, professeur québécois, humaniste et écologiste, reconnu mondialement pour ses recherches sur les écosystèmes. Le film nous entraîne de la terre de Baffin à la mégapole new-yorkaise, en passant par la Gaspésie et le Brésil. Donc vous pourrez avoir à 18h une conférence de presse de la nouvelle dimension sur ces projets 2015 et notamment la présentation de la 6e édition du festival 48 images secondes sur le cinéma québécois. Et ensuite à 19h30, la projection gratuite de Quelques raisons d'espérer. Donc c'est organisé par la nouvelle dimension.
Rencontre avec Thierry Arnal, directeur de théâtre de La Mauvaise Tête, qui nous parle de Franck Vigroux chez Cyril Atrazik.
Bonjour. L'idée était pour cette soirée qui aura lieu donc le mardi 16 décembre chez Cyril Atrazik au restaurant Camilou à Aumont-Aubrac de faire rencontrer deux artistes dans deux disciplines différentes. Franck Vigroux qui est un compositeur et musicien et Cyril Atrazik, chef étoilé. Il s'agira d'une performance donc où les deux artistes se retrouveront aux platines musicales et non pas aux batteries culinaires. Et le chef qui restera avec ses assiettes et ses poêles pour nous concocter un repas et on aura l'ambiance sonore donc créée par Franck Vigroux. Donc comment deux artistes vont se rencontrer, vont parler, vont imaginer, vont nous essayer de nous épater chacun dans leur domaine et en essayant de créer justement des liens entre eux deux. Le repas est proposé donc au tarif de 50€ avec donc bien sûr le menu, les boissons et l'ambiance musicale autour de ce repas.
Rencontre avec Valérie Corral, présidente du Ciné-Club Mendois. Parmi les 3 thèmes de la saison du Ciné-Club, ce film parle de la passion. Pouvez-vous nous le présenter ?
Gazelle a été réalisé par Jean-François Pignon, qui est un dresseur connu dans le monde entier pour son travail avec le cheval en liberté. Et comme il trouvait personne pour faire son film, il est passé devant et derrière la caméra, ainsi que dans la distribution. Et il vient nous présenter son film pour répondre aux vœux d'une petite fille qu'il a rencontrée au salon du cheval à Avignon, car elle voulait absolument le voir, le film. Et comme en Lozère, il y a beaucoup de cavaliers, on répond à la demande de plusieurs personnes. L'histoire, c'est que pour ses 10 ans, son papa lui a offert une pouliche de 18 mois qui s'appelle Gazelle. Il l'a dressée comme un chien, en liberté. Il a commencé à faire des spectacles dans les villages autour de chez lui. Et il a été sélectionné pour les crinières d'or. Ça fait 30 ans que ça existe à Avignon. Et petit à petit, son travail avec le cheval est connu dans le monde entier. Et il a voulu nous raconter la façon de dresser les chevaux qui pour certains est une, il y a un faible et un fort, et lui c'est il faut être dominant certes, mais être dans le calme absolu, parce qu'un cheval a besoin de calme pour pouvoir travailler.
Merci Valérie Coal.
Alors le film sera projeté mardi 16 décembre à 20h15 au cinéma Trianon de Mende. Mercredi 17 décembre à la salle des fêtes de Langlade, Les 7 gueules du dragon à 15h. Cher peuple, c'est votre roi qui vous parle. Depuis hélas fort longtemps, un dragon à 7 têtes mange nos enfants. Il existe que chaque jour, à midi tapante, on lui apporte sur le pont une jeune fille. Chaque jour, une jeune fille est tirée au sort. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. La princesse, la chair de ma chair, a été tirée au sort. Elle sera amenée sur le pont pour être mangée par le dragon. Majesté, moi, je tuerai le dragon et votre fille, je l'épouserai. Qui est donc ce jeune homme? D'où vient-il? Saura-t-il vaincre l'abominable dragon? C'est un spectacle gratuit, familial, à partir de 5 ans, qui est proposé par les foyers ruraux de Langlade.
Mercredi 17 décembre, toujours au Théâtre de Mende à 15h. Donc, sur un arbre perché, le comité des fêtes de la ville de Mende convie les enfants et leurs parents à un spectacle de Noël intitulé « Sur un arbre perché » présenté par la Compagnie du Lézard. Ce spectacle est une cuisine de fables. La grenouille veut se faire aussi gros que le corbeau, flatté par un moucheron malade de la peste. Le loup emporte les deux mulets dans la forêt. À cette préparation, rajoutons une bonne poignée de théâtre, quelques notes de musique et un bon tour de chant. Ce doux fumé exhalé à notre narine, on le collait. On en a déjà goûté. Voilà, c'est un spectacle qui sera gratuit, ouvert aux familles à partir de 5 ans et s'organisé par le comité des fêtes de Mende.
Mercredi, toujours, au centre de loisirs de Langogne, deux spectacles. Le premier à 16h30, Caillou. C'est un spectacle d'ombre tout en couleurs. Caillou, un petit oiseau gris, rêve de plumes colorées comme celles de ses amis. Afin de l'aider à réaliser ce souhait, les oiseaux vont offrir leurs idées ingénieuses et un brin farfelu. Les expériences que Caillou traverse tour à tour l'amusent, l'agacent, le distraient, la guérissent. Il finit par s'accepter et découvre que depuis longtemps, déjà, il n'avait pas besoin de changer pour être aimé de ses amis. C'est un spectacle de 18 mois à 8 ans. Le second spectacle, à 18h30, s'appelle « Cabaret du Petit Monde ». La musique s'élève, les étoiles s'envolent, la lumière apparaît, les rideaux s'ouvrent. Les artistes du Cabaret du Petit Monde viennent vous présenter leurs plus beaux numéros. Magiciens, équilibristes, jongleurs, dresseurs d'animaux se retrouvent dans ce cabaret pour faire vivre le cirque à partir d'une valise. C'est un spectacle tout public et ces deux spectacles sont proposés par la bibliothèque de Langogne, la crèche et le centre de loisirs.
Jeudi 18 décembre au cinéma Trianon de Mende à 19h15 de la danse. Fêter la danse avec le ballet de l'Opéra de Paris. Donné seulement lors de galas ou de manifestations exceptionnelles, le défilé du ballet de l'Opéra National de Paris est une parade unique dans le monde de la danse destinée à présenter la troupe dans toute l'envergure de la scène. C'est ouvert au tout public et c'est organisé par le cinéma Trianon de Mende.
Vendredi 19, au ciné-théâtre de Saint-Chély-d'Apcher, de la musique avec Quanti Jo Dassin, à 20h30. Ce spectacle tendre et loufoque autour des premières chansons de Jo Dassin met en lumière les racines blues et country folk de son répertoire et son goût pour les histoires bien ficelées. La Vanda Bono, les Dalton, le Petit Pain au chocolat seront à la fête, mais aussi Mon village du bout du monde, Cathy Cruel et quelques pépites méconnues. Le tout chanté par trois cow-boys hauts en couleur. Bon retour dans les 60s. Ce sera pour un tarif de 12 euros, 9 euros et 6 euros et c'est un spectacle tout public dès 6 ans proposé par le ciné-théâtre de Saint-Chély-d'Apcher.
Tagada, tagada, voilà les Dalton. Tagada, tagada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tagada, tagada, y'a plus personne.
Jeunes gens, la véritable histoire de l'équipage.
À la place de crayons, ils avaient des limes. En guise de cravate, des cordes de lin. Ne vous étonnez pas si leur tout premier crime fut d'avoir fait mourir leur maman de chagrin. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Tagada, tagada, voilà les Dalton. C'était les Dalton.
Samedi 20 décembre, à la Jeannette Verte à Florac, à 15h30, de la danse avec Si j'étais elle. Donc, Si j'étais elle, c'est la rencontre entre une danseuse, Séverine Parouti, et une chanteuse soprano, Annabelle Plaille. C'est aussi la rencontre entre la danse contemporaine et le chant, le verbe et le geste, le son et l'image. Le son est très très présent dans ce spectacle, ainsi que l'image. C'est le désir de s'intéresser aux figures féminines des contes de fées, dans la relation entre la voix et le corps. De poser un regard dans le miroir et rendre visibles ces personnages enfouis en chacun de nous. C'est une forêt de ballons blancs où l'on ne rencontre pas un personnage défini, mais des ogresses un peu princesses, des fées un peu sorcières et des reines un peu servantes. À la fois douces, castratrices, méchantes, craintives, bêtes, violentes, naïves, tantôt seules, tantôt multiples, tantôt grandes, tantôt petites. À partir de 5 ans et avoir en famille, bien sûr, pour 8€ et 5€ en tarif réduit, et c'est organisé par la Jeunette Verte.
Samedi toujours à la salle polyvalente de Langogne, à 16h, de la musique avec le Grand Bazar. Les 5 musiciens débarquent, leurs valises pleines de musique, d'humour et de magie. Les villes goupilles arriveront-ils enfin à voler les poules du fermier? Les ogres veulent-ils toujours manger les enfants? Qui est donc ce vieux loup noir qui chante si bien le rock'n'roll? Zouille le magicien va-t-il faire apparaître un dragon? Une chose est sûre, ça va vraiment être le Grand Bazar. C'est un spectacle gratuit, tout public, dès 4 ans, et proposé par l'association Les Fadarelles et la ville de Langogne.
Samedi 20, à l'église de la Canongue, à 17h, de la musique avec un concert de Noël, chœur, orgue et soliste, avec la participation de la chorale chanteloise pour le chœur, à l'orgue Monsieur Jean Lartigot, organiste renommé, et comme soliste, Stéphanie Navèche. Un programme avec des œuvres de Mozart, Handel ou des compositeurs contemporains américains et des chants traditionnels de Noël. Un programme très varié sous la direction de Jennifer Vanover, chef de chœur de la chorale chanteloise. Donc participation libre à l'issue du concert, c'est ouvert au tout public et c'est organisé par la chorale chanteloise.
Samedi toujours à l'église de Bédouès, à 17h30, un autre concert de Noël avec O Magnum Mysterium par l'ensemble vocal de Molaison. C'est un concert vocal classique, entrée libre, participation libre aux frais. C'est un spectacle tout public et qui est proposé par l'atelier vocal en Cévennes.
Et enfin, samedi 20, toujours au Théâtre de la Rentelle à 19h30 du cinéma avec la nuit du cours. Donc c'est organisé par le collectif Fous du Doc dans le cadre de la manifestation nationale autour du court-métrage pour passer le solstice d'hiver en images. Voilà, ce sont des séries de courts-métrages minutieusement choisis, entrecoupés de pauses culinaires. C'est ouvert au tout public et c'est organisé par l'Hermine de Rien.
Bonne semaine
à tous.